Gloire au Seigneur, nous voulons prier un moment. Tendre Père, nous te disons merci, toi qui nous convoques aujourd'hui dans ta maison pour nous faire du bien. Nous savons que tu nous attendais en ce lieu et prions que par le Saint-Esprit tu parles à nos cœurs, que tu déposes quelque chose de nouveau qui portera du fruit et pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Soyez encore remplis de joie et de zèle de servir Dieu, parce que telle est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous sommes remplis de reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus, qui nous permet en ce jour de venir nous tenir derrière cette chair. C'est une grande responsabilité que de parler de la part de Dieu. Notre gratitude aussi vis-à-vis de notre pasteur Joseph Bondo ainsi que maman Gisèle pour cette marque de confiance et que le Seigneur les bénisse alors qu'ils sont en train de le servir à cet instant même. J'aimerais que aujourd'hui nous puissions partager quelques versets des Écritures. Nous commencerons par Jean au chapitre 4. Jean, chapitre 4, nous lirons du 25e au 42e verset, une très bonne lecture qui va nous permettre, en cette semaine particulière où nous allons nous rassembler pour écouter un enseignement sous l'Église, mais aussi pour aller gagner les âmes. Regardez comment est-ce qu'un jour Jésus s'est tenu face à face avec une dame. Elle était samaritaine, elle est reconnue internationalement comme étant la femme samaritaine, n'ayant pas de prénom précis qui nous ait été légué, mais nous nous souvenons d'elle comme étant la femme samaritaine. Dans la Bible, il y a des femmes qui ont des noms. Quand on dit Marie-Madeleine, elle a, vous avez un nom. On dit, voilà le nom que vous avez pensé là. Voilà, elle a un nom. Mais elle, quand on se souvient d'elle, on dit seulement la femme samaritaine. Cette dame est restée avec Jésus. Ils ont bavardé pendant un bon moment, on ne sait pas quantifier en temps parce que nous n'en avons pas la précision. À un moment précis, elle a commencé à ouvrir son cœur au Seigneur. Et Jésus lui a dit des choses qui concernaient son âme, qui concernaient sa vie. Jean chapitre 4, nous lisons à partir du verset 25, pour ne pas avoir à lire toute l'histoire. Nous avons juste choisi cette portion. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ?» Ou de quoi parles-tu avec elle? Ah, Jésus aussi avait des disciples, hein? Il pensait des choses. L'on vit avec une femme. Il disait, mais maître, tu fais quoi? Mais la Bible dit, ils ont pensé, ils ont gardé dans le cœur. Alors, verset 28, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Jésus, mange, mange, Rabbi. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, écoutez encore, ils disaient, ah, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Ainsi, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu en ce matin? Gloire à Jésus! Amen! Aujourd'hui, j'aimerais m'appesantir sur le verset 35 qui dit « Levez les yeux et regardez, 2 points, la moisson est mûre. » C'est le thème de notre message de ce jour. « Levez les yeux et regardez les champs. » Les champs sont déjà en train de blanchir, la moisson est mûre. Nous voulons nous servir de cette scène d'évangélisation parce que de ça qu'il s'agit. Jésus aborde cette dame dans un endroit précis et à un moment précis. Habituellement, ce n'est pas à ces heures-là que les gens allaient pour chercher de l'eau. Cette femme devait vivre dans la culpabilité, cette femme devait vivre loin de certainement des principes moraux de la société, et elle choisissait un moment où les autres dames n'étaient pas là. Si vous regardez bien, elle était qui? C'était environ la 6e heure. À ce moment-là, les femmes de l'époque avait déjà pris de l'eau très tôt les matins. Et Jésus, c'est à ce moment-là précis qu'il vient au puits. Ah, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu sait quel est notre problème et il sait comment nous trouver. Jésus vient seulement à ce moment-là et il commence à parler avec la dame. Il lui pose des questions, mais la femme se dit, mais finalement, toi, tu me poses des questions sur l'eau. Cette eau, c'est à toi? C'est toi-même qui as fait ça, hein? Alors Jésus dit, mais non, 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 ce que moi je peux te donner, c'est plus que cette eau et tu n'auras plus jamais soif. Ah, la dame est interpellée, dit, mais finalement toi tu es une sorte de prophète ou quoi? C'est quoi? Elle dit, ah, juste parce que je te dis ça, alors tu veux que je te révèle? Tu as eu plusieurs maris et même celui que tu es là n'est pas à toi. La femme dit, oh là là, ça vraiment mon jour est arrivé. Alléluia. Dieu a un projet pour nous. Au-delà des projets des hommes, au-delà de nos propres projets, il y a un projet de Dieu. Nous allons parler de l'évangélisation, mais nous nous permettrons aussi de regarder à divers sujets, à divers domaines de notre vie, pour lesquels le Seigneur nous dit aujourd'hui, levez les yeux et regardez les champs, la moisson est déjà prête. Levez les yeux et regardez les champs. Jésus donc vient et parle avec cette femme jusqu'au point où la femme est convaincue. Elle laisse sa cruche. Elle était venue chercher de l'eau. Mais la révélation de Jésus est tellement forte qu'elle laisse même l'eau. Elle va d'abord au village et puis elle dit aux gens, écoutez, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé de moi. Celui qui a réellement rencontré le Seigneur n'a pas besoin d'un cours d'évangélisation. Celui qui a réellement rencontré le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui donne des principes d'évangile. Si tu as réellement rencontré Jésus, tu deviens automatiquement un évangéliste. Lorsque la conversion est authentique, l'évangélisation qui s'ensuit est aussi authentique. Vous n'avez pas besoin que, oh non, on doit m'affermir. Non, c'est quelque chose d'exceptionnel. Lorsque vous recevez Jésus, il y a une paix profonde qui entre dans votre cœur. Il y a une joie comme vous n'avez jamais eu. Bien-aimés, ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle. Celui qui a reçu Jésus ne se sent plus comme il était avant. Le jour où moi j'ai reçu Jésus, je ne sais même pas si j'ai dormi la nuit. J'avais une joie. Je me souviens d'un jeune homme avec qui j'avais partagé la parole de Dieu. À l'époque, on était tous jeunes. Il a reçu le Seigneur. Le lendemain, il est venu me dire, tu sais quoi? J'ai passé la nuit en écoutant des gens chanter. Des gens chanter. Donc, pour moi, il y avait une fête chez les voisins. Alors, le matin, il dit à ses parents, les voisins, ils n'ont pas arrêté de jouer la musique. On dit, il n'y avait pas de fête chez les voisins.
Quand il est venu, monsieur dit, ah, je l'ai lu ce verset, j'ai dit, il y avait une joie dans le ciel, Dieu t'a fait goûter à la musique là-bas, là, Dieu est en train de se réjouir parce que quelqu'un est venu à lui. Bien-aimé, au ciel, l'on se réjouit lorsqu'un homme qui était perdu devient un homme sauvé. J'aimerais que, si vous ne l'avez jamais fait, que vous preniez la décision de devenir un organisateur de fêtes au ciel. Que vous puissiez commencer à organiser des fêtes au ciel. Dans les 10 dernières années, il y a des fonctions, des rôles qui sont nés dans la société. Les gens dans les pays anglophones les appellent event planner, wedding planner, des gens qui organisent des fêtes, des gens qui organisent des événements. Mais il y a un bien meilleur rôle que Dieu te donne. Au lieu d'organiser les fêtes dans les salles ici, tu peux organiser la fête au ciel. Tu peux faire que cette semaine, toi et moi, nous puissions organiser une fête autour du trône de Dieu. Si la femme samaritaine fermait sa bouche, ce témoignage n'allait pas arriver. Jésus a une stratégie. Il touche une femme et il sait qu'en touchant cette femme, il va atteindre une foule. Très souvent, nous attendons que ce soit les pasteurs qui aillent prêcher. On se dit non, si c'est le pasteur, comme c'est le pasteur, les gens vont beaucoup plus accepter et croire. Mais Jésus ne le croit pas forcément. Et l'image est encore frappante parce que Jésus prend une femme dans ces sociétés du Moyen-Orient. La femme était un peu mise au second degré, mise comme dans les tiroirs. Ah, vous, maman, vous, mes sœurs, j'aimerais vous encourager. Les femmes aussi peuvent apporter les messages de Jésus. Les femmes aussi peuvent aller dans les rues, dire, voilà, j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme, il m'a parlé de moi. Amen. Donc personne n'a à se sous-estimer. Les disciples, pour revenir dans le contexte, reviennent donc de chercher la nourriture. Au verset 8, il est écrit qu'ils étaient allés chercher des nourritures, la nourriture, dans les vivres dans la ville. Donc quand ils reviennent, se disent, ce Jésus-là, on l'a laissé, ah, le maître doit être affamé, vraiment, et fatigué. Non, il le trouve en train de bavarder tranquille avec cette dame. Et puis, il suspecte un peu, comme nous, les êtres humains, on se dit, ah, le maître, avec cette sœur-là, qu'est-ce qu'ils font autour du puits? Bon, je ne sais pas, j'aime souvent imaginer, quand je lis la Bible, est-ce que Jésus s'était mis un peu comme ça au coin? Est-ce que la femme était à genoux en train de pleurer? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais toujours est-il que lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont posé la question. Vous savez, moi, quand je lis la Bible, j'aime me poser beaucoup de questions. Pourquoi ils s'étonnent que Jésus parle avec une femme? Et c'était la première fois que Jésus parle avec une femme. Est-ce que Jésus ne parlait pas avec des femmes? Mais je suis sûr, ils ont remarqué la profondeur de la discussion. Peut-être les yeux de la femme étaient déjà mouillés de larmes. Et peut-être ils pensaient qu'elle était amoureuse de Jésus. Bon, ça c'est moi qui interprète. Parce qu'ils se posent des questions qui sont des questions normales. Un garçon de 33 ans, il ne peut pas parler avec une femme. Amen. Et puis finalement, il lui donne... Vous savez, quand la femme parle, vous savez, quand il y a la présence des gens... Bon, je ne sais pas si vous avez fait ça. Nous, quand on était plus jeunes, quand il fallait manger, que tes frères viennent te chercher, vous êtes en train de jouer. Il y avait des signaux et des codes. Par ce code-là, les autres... Ah, okay. Il n'y a que toi qui sais que la nourriture est prête. Bon, si vous n'avez pas fait ça, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Donc, vous faites un geste là, comme ça. Là. Ah, toi, tu sais que... Oh, bah, donc, maman a fini. Donc, les disciples faisaient des gestes à Jésus, probablement. Et puis Jésus, puis bon, la femme quand elle passe, elle dit, bon, vous voulez quoi? Oh non, la nourriture, non, non, non. Il les challenge d'abord en leur disant que moi j'ai une nourriture à manger, c'est celle de faire la volonté de Dieu. Il dit, vous voyez, à ce moment précis, je ne suis pas venu ici pour manger. Vous pensez que là, moi j'attends la nourriture? Non, je veux faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu à cet instant, c'est de gagner cette âme. Il s'ensuit donc une discussion. Ils insistent, mange, mange, tu dois être fatigué, tu dois être affamé, nous avons longtemps marché. Alors, ils commencent même à se poser la question si Jésus avait déjà mangé. Et c'est là que Jésus les surprend, avec le verset 35 que nous avons lu. Il utilise un adage populaire qui était utilisé dans les langages courants. C'est pourquoi, dans la formulation du texte en français, il est écrit « ne dites-vous pas ». Quand Jésus dit « ne dites-vous pas », c'est parce que dans la société de l'époque, il y avait cette sorte d'adage. Vous savez, il y a toujours dans les sociétés des phrases toutes faites. Dans 4 mois, on aura la moisson. Les juifs de l'époque avaient cette phrase-là, connue et célèbre. C'était peut-être une sorte de maxime connue de manière populaire. Ah, chaque fois qu'on plante ceci, après 4 mois, on l'aura. Alors Jésus utilise cet adage. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Il leur demande de quitter cette discussion des nourritures et d'avoir faim, de m'avoir trouvé qu'une femme ou quoi que ce soit. Et leur dit, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La moisson dont Jésus parle ici, je vais déjà l'expliquer, c'est la moisson des Samaritains. La ville de Samarie venait de recevoir le message de l'Évangile. Pendant que les disciples avaient les yeux tournés vers la nourriture, manger, boire de l'eau, Jésus est en train de leur dire, écoutez, cette ville de Samarie, elle est déjà prête à recevoir la parole de Dieu. La moisson de Samarie est déjà prête. La moisson du salut ici à Lippen, elle est déjà prête. Mais nous ne la voyons pas parce que nous ne levons pas les yeux. Église de la Borne, lève les yeux. La moisson de Lippen, elle est prête. La moisson de Ngaliema, elle est prête. La moisson de Kinshasa est prête. Nous ne la voyons pas parce que nous avons les yeux fermés ou à la limite les yeux tournés vers le bas. Alors Jésus commence à dire ces deux choses principales. Levez les yeux. Si tu ne lèves pas les yeux, tu ne verras pas la moisson. Si tu ne lèves pas les yeux, tu vas rester concentré sur les adages populaires. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes soumis à ces adages populaires, à ces phrases toutes faites que nous avons entendues depuis l'enfance. Malheureusement, vous allez trouver, même dans la vie chrétienne, des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui restent encore prisonniers des principes et des mots M-O-T-S qu'ils ont entendus quand ils étaient encore de l'autre côté. Bien-aimé, qu'est-ce qui remplit ton cœur? Ce sont des adages populaires, comme cet adage traduit en français. Manger avec une femme, c'est... Ah! Moi, je n'ai pas terminé, mais vous-même, vous voyez que vous connaissez cet adage. Vous comprenez par là qu'il y a des adages qui nous enferment dans des principes. Je me souviens, il y a quelques années, je ne sais pas si peut-être j'ai déjà donné l'exemple ici, j'ai travaillé dans une entreprise avec un monsieur. Dans une profonde discussion, il se plaignait de sa femme. Et puis finalement, moi, je lui donnais des conseils. Il me lâche une phrase. Il me dit, mais toi, tu ne sais pas que les femmes ne sont pas intelligentes. Oh. Alors là, j'ai eu comme un 360 degrés dans la tête. Là, je lui ai posé la question, ta maman n'est pas intelligente. Ben c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était prisonnier d'une phrase seulement qu'il avait entendue et il croyait à ça. Que quand vous mangez, avalez les graines d'orange. Ah, vous aussi, on vous a menti comme ça. Mais les enfants d'aujourd'hui sont intelligents. Un jour, mes enfants m'ont dit, non, papa, on sait que ces choses-là, vous racontez seulement pour raconter. Est-ce que vraiment ça peut pousser à la tête, vraiment à l'arbre? Mais nous, on n'avait pas été aussi intelligents à notre époque. Mais bien aimé, vous voyez, il y a des phrases qui vivent dans la société, des phrases qui survivent dans les générations. Il y a des concepts, au fait, que nous avons estimé être vrais. Quand on nous présente la vérité de la parole de Dieu, ces principes nous bloquent. C'est pour ça que Jésus oppose cet adage populaire à la vérité prophétique de ceux qu'il voyait au temps T. À l'instant I, Jésus, lui, il voyait une moisson prête. Mais leur disait, vous, vous êtes encore enfermés. Vous croyez que c'est pas aujourd'hui que les Samaritains seront sauvés. Vous avez un adage populaire qui remet à 4 mois. Vous avez un adage populaire de procrastination. Vous avez un adage populaire qui reporte toujours le rendez-vous au futur, à un futur inexistant peut-être. Mais moi, je vous dis, levez les yeux. Regardez, la moisson est prête. Est-ce que vous m'aidez à dire à votre voisin, la moisson est prête? La moisson est prête, mon frère. La moisson de ta vie est prête. Les choses que Dieu t'a promises, c'est prêt. La cuisine est déjà faite. Vous savez, une des traductions du célèbre mot que Jésus dit sur la croix, tout est accompli, ça peut vouloir dire, dans les textes originaux de manière terre à terre, la cuisine est prête. La cuisine est finie. Tout est accompli. Tout ce qu'on devait préparer, on a préparé. C'est comme le moment où les dames nous invitent à table et disent, voilà, la nourriture est prête. Mon frère, ma soeur, du point de vue de Dieu, pour lui, la moisson est déjà prête. Lorsque nous nous sommes enfermés dans nos principes et dans nos doctrines, Dieu, il voit une moisson prête. C'est pourquoi la première des choses qu'il demande de faire, c'est de lever les yeux. Si tu ne lèves pas les yeux, tu ne verras pas que la moisson est prête. Deuxièmement, après avoir levé les yeux, il demande de regarder les champs. Vous avez beau lever les yeux, mais si vous ne regardez pas dans la direction qu'il faut, vous ne comprendrez pas non plus dans quel temps vous êtes. Levez les yeux, regardez. Déjà, la moisson est en train de blanchir. Tout est prêt. Dans un autre texte, il dit, priez que le maître de la moisson envoie des serviteurs dans sa moisson. Alors, pourquoi Dieu nous demande-t-il de lever les yeux? Pourquoi lever les yeux? Pourquoi est-il important, est-ce tellement important d'avoir les yeux levés? Vous me direz peut-être, même en vous basant sur la Bible, que dans le texte où on parle de la prière de cet homme pharisien avec le pauvre homme, il y avait cet homme, la Bible dit qu'il n'arrivait même pas à lever les yeux et s'est frappé la poitrine en disant, je suis un pécheur. Des fois nous nous enfermons aussi dans des contextes, des textes pris hors contexte, en disant non, Dieu n'aime pas qu'on lève les yeux, il faut toujours avoir la tête comme ça, frapper la poitrine. Quand on était dans une certaine religion, nous aimions de tels principes. On avait un plaisir à dire, oh, je suis un pécheur. Vous savez, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne dis plus, je suis un pécheur. Moi, je ne suis plus un pécheur. Jésus m'a sauvé. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Jésus est venu vivre sa vie en moi. Le péché est devenu un accident pour moi. J'aime beaucoup un exemple, le pasteur Vernon donnait. Il donnait un exemple simple entre un pécheur et un chrétien à qui il peut arriver de pécher. Donnait l'exemple d'un agneau. Il disait que l'agneau, lorsqu'il entre dans la boue, il va se mettre à crier. Il va faire du bruit parce qu'il est dans un élément qui n'est pas le sien. Mais alors que si vous mettez un porc, une truie, dans la boue, il va même commencer à manger parce qu'il est dans son élément. J'aimerais vous rappeler que depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, si du moins vous l'avez fait, Jésus est venu vivre sa vie en vous. Et c'est un miracle. Le péché, ce n'est plus votre vie. Le péché, si vous arrive d'en commettre, ça doit être un accident. Et directement, vous sentez que vous êtes éloigné de Dieu. Seigneur, pardonne. Vous n'attendez pas, comme les religieux, la prière du soir. Vous avez commis le péché à 8h07. C'est la prière de 22h14. Vous allez dire, Seigneur, pardonne. Non, le Saint-Esprit directement te met mal à l'aise. Ah, être enfant de Dieu, c'est magnifique. Être enfant de Dieu, c'est magnifique. Mon frère, toi qui me suis, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je t'en conjure, donne-toi à lui. Lever les yeux est une expression qui est utilisée dans la Bible depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. J'ai prévu de nous donner 2 illustrations de l'Ancien Testament où on en parle, et un dans le Nouveau Testament et pas n'importe laquelle, c'est-à-dire une illustration qui se rapporte à Jésus. Lorsque Dieu choisit Abraham et qu'il lui parle, si vous avez le temps de le lire, vous remarquerez en Genèse 18 et 22 que Dieu dit 4 fois à Abraham, lève les yeux. Mais je m'intéresse ce matin à Genèse 18, le verset 2, où Dieu parle à Abraham, et ensuite il est écrit, « Il leva les yeux et regarda, voici trois hommes qui étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. » Il reçoit la visite de Dieu. À vrai dire, dans le texte, si vous le lisez, vous comprenez que c'est Dieu qui est venu. Il reçoit des visiteurs qui n'avaient rien de commun aux humains. Mais la première des choses que Abraham devait faire pour accueillir la présence de Dieu, il devait lever les yeux. Il lève les yeux, ensuite il fait quoi? Il regarde. C'est pas que tu lèves les yeux, tu fermes. Non. Il lève les yeux et il fixe dans un objectif. Il voit, ah, ça c'est quel genre de visiteur? Trois hommes. Alors la Bible dit, quand il les vit, parce que aussi vous pouvez regarder sans voir, mais quand il les vit, il courut au devant d'eux et il se prosterna en terre. Et à plusieurs reprises, le patriarche Abraham avait appris à lever les yeux vers l'Éternel pour contempler Dieu dans sa grandeur, mais aussi pour recevoir de Dieu la providence et la provision pour sa vie. Abraham avait tellement de projets que Dieu sans cesse, on va dire, lui rappelait, le mettait dans un régime durant lequel Abraham devait toujours lever les yeux vers Dieu. Le deuxième exemple que je donnerai dans l'Ancien Testament, c'est celui de Josué, dans Josué chapitre 5, le verset 13. Josué 5, verset 13, juste avant d'aller livrer la bataille de Jéricho, comme Josué était près de Jéricho, la Bible dit, il fit quoi? Il leva les yeux et regarda. Ah, c'est comme si ces mots-là ne faisaient qu'un seul texte. Il leva les yeux et regarda une fois de plus. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? De même que Abraham, Josué a appris à lever les yeux, voir le chef de l'armée de l'Éternel, et puis, à partir de ce moment, il va prendre courage pour livrer les batailles qui devaient mener Israël à la terre promise. Parce que Josué est celui qui va permettre à Israël d'avoir la concrétisation des promesses de Dieu reçues par Moïse. La Bible dit que Moïse ne leur donna pas le repos. C'est Josué qui les fit rentrer dans ce repos. Pour avoir la force d'accomplir la volonté de Dieu et pour avoir la force de conquérir les nations, les peuples, les territoires, parce que j'aimerais le rappeler, les territoires que Dieu leur avait promis n'étaient pas inoccupés. Il y avait des gens. Josué a appris à lever les yeux et à regardez. Troisième exemple que je vais prendre, c'est dans Jean chapitre 11 et le verset 41, c'est celui de Jésus lui-même. Il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament où on nous montre Jésus aussi en train de prier comme ça. Ils ôtèrent donc la pierre avant la résurrection de Lazare et Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus, avant de faire la prière de la résurrection, avant de rendre la vie à ceux qui étaient morts, avant de rendre la vie à ce homme de Lazare qui ne vivait plus, la première des choses qu'il fait, il lève les yeux. Ce matin, j'aimerais t'encourager à lever les yeux. Lève les yeux. Peut-être tu as les yeux courbés, les yeux en bas. Tu as tellement été affligé, les choses de ce monde t'obligent à voir la tête en bas. Ce matin, la parole du Seigneur, c'est de lever les yeux. Il n'y a pas que ce que l'adage populaire dit. Il n'y a pas que ce que tu as vécu jusqu'ici. Il y a aussi Dieu qui te dit, la moisson a déjà blanchi. Alléluia. Jésus, d'ailleurs, je n'ai pas prévu de lire ce texte-là. La Bible dit que dans Jean 17 au verset 1, moi je vais le lire, après avoir ainsi prié, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton fils te glorifie. Là encore, quand il fait la prière sacerdotale, il lève les yeux. Pourquoi devons-nous lever les yeux? Pourquoi Dieu insiste-t-il sur le fait de lever les yeux? Parce que Dieu sait que nous sommes dans un monde qui, par moments, à cause des circonstances, des situations dans lesquelles nous vivons, nous commençons à regarder en bas. Nous regardons en bas. Par moments, ce sont les principes que nous avons eus qui nous obligent à regarder en bas. Les combats, les vicissitudes de la vie, toutes ces flèches, par moments font de nous des hommes et des femmes qui regardent en bas. Je ne sais pas quelle est votre condition ce matin, mais j'ai une parole de Dieu pour nous. Lève les yeux. Je vais le prendre au singulier. Lève les yeux et regarde. Amen. Certainement, quand tu regarderas et dans la direction de Dieu, tu recevras la force pour marcher. Deuxièmement, j'aimerais parler de quelques avantages. Je dis bien quelques parce que nous ne pouvons jamais finir la liste, parce que de toutes les façons, nous ne l'avons pas. Mais parmi les avantages des hommes et des femmes qui lèvent les yeux dans la Bible, premièrement, c'est que lorsque nous levons les yeux, la première personne que nous voyons, c'est Dieu. Pourquoi Dieu nous insiste auprès de nous pour que nous levions les yeux? C'est pour que nous arrêtions de penser que notre solution se trouve là où nous sommes. Souvent, nous pensons que notre solution est là, avec moi. Ah, j'ai mon sac. Dans mon sac, il y a mes diplômes. Dans mon sac, il y a mon CV. Ah, j'avais d'ailleurs bien saisi mon CV. Ah, en tout cas, ils vont me prendre à ce poste. Ah, tu vois là d'où je viens. Mon frère, ma sœur, lève les yeux. Lève les yeux. Arrête de les mettre en bas dans ton sac. Arrête de les mettre dans l'ordinateur où tu saisis bien. Il y a des hommes et des femmes qui avaient des CV comme les tiens, mais qui n'ont jamais pu trouver un travail. Celui qui ouvre les portes, c'est Dieu. Est-ce que tu peux lever les yeux ce matin? Est-ce que tu peux lever les yeux ce matin? Lève les yeux et regarde à Dieu, regarde à Dieu. Que Dieu soit ta ressource et que Dieu soit ta source. Arrête de regarder à tes capacités. Ah, une belle femme comme moi ne peut pas manquer les marques. Vous savez, il y a des fois des femmes qui disent, une femme comme moi. Moi, c'est qui toko le kolanga, azanga libana. Pour vous qui ne parlez pas le français, une jolie femme comme moi ne peut pas manquer le mariage. Vous savez, je suis convaincu que pour certaines personnes, Dieu les fait durer un peu pour qu'ils puissent commencer à comprendre qu'ils devaient lever les yeux. Ne pas regarder dans leur beauté. Ne pas se regarder au miroir. Eh, hey, Dieu, c'est comme si tu m'as créé 4 fois. Tu m'as créé, recréé, tu m'as encore créé, tu as remodelé. Ah! Vous savez, il y a des narcissiques, hein, de ces personnes qui ont une telle opinion sur elles-mêmes, et puis finalement, quand on s'est mis, on dit, hey, comment tu peux donner tout ça à une seule personne, Seigneur? Maintenant, Dieu aussi te met en pause. Jusqu'à ce que tu vas comprendre qu'il faut lever les yeux. Lève les yeux, ma sœur. Lève les yeux, mon frère. Lève seulement les yeux. Si tu lèves les yeux, tu verras un Dieu fidèle, un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui a la capacité de te donner ce que tu dois avoir, un Dieu qui tient les promesses de ta vie dans ses mains. Mais ce qu'il attend, c'est que tu arrêtes de considérer que c'est toi qui as la solution, mais c'est que c'est lui. Non seulement il a la solution, mais il est la solution. Deutéronome chapitre 32, le verset 4. J'aime beaucoup ce verset parce que le premier avantage que je souligne, c'est que le chrétien qui a l'habitude de lever les yeux vers Dieu, il voit le Dieu fidèle. Deutéronome 32, le verset 4, il est écrit de Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Amen. Voilà celui que tu vas voir, mon frère, ma sœur. Voilà celui que nous allons voir quand nous allons lever les yeux. Le rocher des âges. Celui dont les œuvres sont parfaites et dont les voies sont justes. Il n'a pas de faute en lui. Et tout ce qu'il fait est correct. Lève juste les yeux. Lève juste les yeux. Peut-être même que tu n'as jamais eu la force d'évangéliser. Peut-être que tu n'as jamais gagné une âme au Seigneur. Mais c'est Dieu qui donne la force. J'ai déjà donné mon témoignage ici. Je me suis converti, je ne savais pas évangéliser. D'ailleurs, quand je suis arrivé à l'église, je ne sais pas pourquoi, mes premières réunions à l'église, on m'a amené dans une réunion du département d'évangélisation, on donnait des formations d'évangélisation. Je disais, mais vous perdez votre temps. Moi, je suis un timide. Je peux même dire, la timidité, c'était moi. Je disais, mais non, non. Aborder un inconnu, comme ça, en route, non. Tu sais pas, peut-être on l'a envoyé, ou bien il va au marché, tu l'interromps. Ah non, ça c'est quelle manière, ça? Alors, j'avais honte de témoigner du Seigneur. Dieu m'a fait grâce de tomber dans un milieu des jeunes gens, parce qu'on était encore écoliers, mais qui respiraient l'évangélisation. Alors, je l'ai dit vraiment, ils respiraient l'évangélisation. Ils me font entrer ensemble, on entre dans un taxi. C'était la belle époque où on entrait deux devant, quatre derrière, vous en souvenez? Probablement, si vous avez pris le taxi, on se coinçait comme dans... Bon, je n'ai fini pas la phrase. Alors, moi, je m'étais mis à côté du chauffeur. Lui, il était du côté de la portière. Il a parlé. Et puis, il arrive à un niveau. Il dit, voilà, je vais maintenant demander aux frères de compléter ce qui reste. Moi, je n'avais jamais parlé à un inconnu. Donc aujourd'hui, là, peut-être quand vous me voyez prêcher devant, vous dites, ah non, ah, il prêche devant les gens. Mon frère, ma soeur, mettez le film de ma vie, remettez derrière, vous allez trouver quelqu'un. Ce jour-là, les prières que je faisais, Seigneur, 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 je vais dire quoi? Je me souviens même d'avoir bégayé alors que je ne l'ai jamais fait de ma vie. J'ai parlé, donc c'est comme si mon cœur voulait sortir. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai reçu ma délivrance en ayant ce courage ce jour-là. Le jour-là, quand j'ai parlé à Saint-Écoute, j'ai dit, yé, ce soit ligno. Ah, bien aimé, des fois c'est dans les larmes et dans la peine. Si tu te décides de lever les yeux, Dieu va te donner la force. Viens avec nous dans cette belle aventure. Nous allons évangéliser dans les rues, nous allons entrer dans les maisons, nous frapperons à la porte et nous leur dirons, Jésus vous aime, nous avons rencontré un homme qui nous a dit tout ce qui nous concerne. Nous voulons que vous aussi vous puissiez faire cette expérience et c'est ce dont le monde a besoin. Et finalement, celui qui regarde vers ce Dieu-là, il reçoit seulement la vision du Dieu fidèle. Non, la deuxième chose que je propose, c'est qu'il reçoit de Dieu la force. Celui qui lève les yeux vers Dieu, reçoit aussi de Dieu la force. Dieu lui donne la force. Psaume 62, le verset 11, la Bible dit, « Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. » Dieu a parlé une fois, et c'est une figure de style dans les textes, des Hébreux de l'époque. Donc, psaume 62, 11, vous pouvez prendre le verset juste après. Voilà, dans la traduction que vous lisez, c'est 12, voilà. Dieu a parlé une fois, et deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Dieu a parlé une fois, mais moi j'ai écouté ça deux fois. C'est ce que dit le psalmiste. La force est à Dieu. J'aimerais te rassurer, mon frère, ma sœur. Quels que soient les défis que vous avez de manière individuelle, en groupe, en famille, mais aussi nous en tant qu'Église de la Borne, pendant toute cette semaine, nous allons dépeupler l'enfer afin de peupler le ciel. La force est à Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons les meilleures techniques d'évangélisation. Ce n'est pas parce que nous connaissons l'évangélisation. C'est parce que nous nous appuyons sur Dieu, parce que la force est à Dieu. Celui qui a l'habitude de lever les yeux, Dieu lui donne cette force. Et troisièmement, celui qui lève les yeux vers Dieu, il va recevoir la vision de Dieu. Dans un texte des Proverbes, la Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. La vision sert de frein, la vision sert d'équilibre. La vision permet à quelqu'un de savoir se situer. Mais cette vision, nous la recevons souvent lorsque nous entrons dans la présence de Dieu et nous décidons de lever les yeux. Peut-être que vous voyez, comme les disciples, que la vision des choses, de la nourriture, des vivres qu'ils étaient allés chercher au marché, et du fait que les Samaritains, ils sont pas concernés. Ils sont pas concernés par ces messages. Non. Jésus, tu es venu pour nous. Jésus a une autre vision. Dieu aime les Samaritains. Et Jésus avait un message pour les Samaritains autant qu'il en avait pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il leur demande de lever les yeux. Vous allez regarder, vous allez entrer dans la vision de Dieu. Vous n'allez plus voir les gens seulement par rapport à leurs origines ou par rapport à ce qu'ils font de mal. Vous allez arrêter de les juger à cause de leurs méfaits, mais vous allez commencer à les porter en prière, à voir la vision de Dieu sur quelqu'un. Vous savez, Dieu a une vision au-dessus de la nôtre. Lorsque vous lisez l'histoire de cet homme qu'on appelle le fou de Gadara, à la fin de l'histoire, la Bible dit qu'il était devenu le prédicateur de la Décapole, c'est-à-dire de l'ensemble de 10 villes. L'évangéliste de la Décapole était un fou. Donc quand les gens regardaient un fou, Dieu voyait un évangéliste. Quand les gens regardaient l'homme en train de faire ses erreurs, parce qu'on dit de lui qu'il se lacérait la peau, il se blessait et on l'entendait crier « Ah !» Mais quand les gens regardaient, oh, il est fou, oh là là, sa maman doit avoir mal au cœur, aïe, 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 leur grand frère, l'aîné de la famille, oh! Dieu, pour Dieu, le monsieur était en train de préparer son témoignage. Il préparait son témoignage. Des fois, les gens que nous voyons aujourd'hui et que nous jugeons durement sont en train de préparer leur témoignage. Mais pour arriver à leur parler clairement, nous avons juste besoin d'avoir la vision de Dieu. Si vous levez les yeux, vous aurez la vision de Dieu. Éphésiens 2, les versets 6 et 7. Éphésiens 2, 6 et 7, la Bible dit que Christ nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu t'a fait asseoir, et toi et moi. La Bible dit nous sommes assis où? Donc comme nous sommes là maintenant, vous et moi nous sommes assis où? Ah, vous réalisez pas ce que je vous dis. La Bible dit que nous sommes pas seulement assis ici à la borne maintenant là. Donc toi et moi, nous sommes assis. C'est pas nous serons assis. C'est au passé composé. Donc c'est un passé. Il nous a ressuscité et nous a fait asseoir ensemble. Et donc, quand vous avez la vision que vous êtes assis avec Christ, vous voyez les choses d'en haut. Vous voyez les choses depuis la place où Dieu se trouve. Quand les gens sont inquiétés, vous n'êtes pas inquiets parce que vous voyez les choses d'en haut à partir de l'endroit d'où vous êtes assis. J'ai une question pour vous. Vous êtes assis où? Vous êtes souvent troublés? C'est parce que vous vous considérez comme étant assis en bas. Utilisez votre position d'enfant de Dieu et regardez que vous êtes assis avec Dieu. Arrêtez de regarder d'en bas. Commencez à regarder comme Dieu. Et si vous regardez comme Dieu, vous verrez ce que Dieu voit. Quatrième leçon, et je m'arrêterai par là. Le chrétien qui a l'habitude de lever les yeux, quel avantage il a? Il va discerner que la moisson est mûre. Le chrétien qui a l'habitude de lever les yeux va détecter la maturité de la moisson. Il va connaître le moment précis pour apporter la parole de Dieu. J'ai écouté le témoignage d'un aîné ici il y a beaucoup d'années. Cet homme était parti évangéliser en République centrafricaine. Il ne connaissait personne. Le Seigneur lui avait mis à cœur d'aller évangéliser. Il lui avait dit que la moisson de cette ville a été prête. Et quand il arrive dans la ville, il s'est dit, Seigneur, je vais faire quoi? C'était pas l'époque où on faisait des affiches. Vous savez, l'histoire d'affiches, ça n'existait pas il y a 30 ans. L'histoire date des débuts des années 80. Alors, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a fait. Il a poussé un cri.
Il est allé dans une place publique. Il a crié comme un fou. Il a encore crié. Vous pouvez essayer aussi.
Et puis tout le monde est venu vous voir comme un fou. Et puis quand ils arrivent, ils disent, Jésus vous aime. Ils commencent à prêcher. Et ce jour-là, beaucoup d'âmes se sont converties. Et le nombre de personnes qui ont été sauvées, lui-même dit, il peut pas les compter. Mais lorsque vous avez l'habitude de lever les yeux, vous pouvez détecter les meilleurs moments. Que non, mon voisin ici, mon condisciple de classe, mon collègue au travail ou au service. Non, c'est le moment de l'amener à Jésus. Pas de l'amener à l'église que les pasteurs lui fassent recevoir le Seigneur. Non. Vous, comme vous êtes là, vous pouvez permettre à quelqu'un de quitter l'enfer et d'entrer dans le ciel parce que vous êtes sauvé par Dieu. Comme la femme samaritaine, vous pouvez devenir l'élément de Dieu qui va permettre à ce qu'une grande foule se convertisse. Vous savez, nous avons lu ce long texte, je faisais exprès parce que je voulais que nous puissions comprendre toute la grandeur de ce qui se passe. À partir du verset 40, on nous dit que les Samaritains avaient reçu le message de la femme. Une personne avait reçu le message de Jésus parce que Jésus avait détecté que la moisson était mûre. Les peuples étaient prêts à prendre le message. Après, le verset 41 nous dit, un beaucoup plus grand nombre coururent à cause de sa parole. Et puis ils vont dire à la femme, écoute, ce n'est pas seulement parce que toi tu nous as raconté des histoires, mais maintenant, nous-mêmes nous avons entendu Jésus et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Si vous êtes capable de détecter que la moisson est mûre, si vous êtes capable de détecter que c'est le bon moment, vous permettrez à ce que vous deveniez un instrument de Dieu. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous avons été sauvés pour sauver. Dieu nous a rachetés de la mauvaise vie, manière de vivre que nous avions, de la mauvaise vie que nous avions, pour qu'à partir de nous, Dieu puisse sauver d'autres personnes. Amen. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez lever les yeux et regardez, la moisson est mûre. La moisson de Kinshasa est mûre. La moisson du Congo est mûre. La moisson du monde est mûre. Souvent, nos yeux sont en bas. Nos yeux sont baissés par les problèmes, les poids, les charges de la vie. À telle enseigne que nous ne discernons plus où est la moisson. La moisson est mûre. Ce que vous cherchez, vous cherche. Ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous soupirez, le Seigneur vous l'a donné. Mais levez les yeux et regardez. Nous voulons courber nos têtes un moment et prier. Tu fais des grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant et étonnant. Tu fais de grandes choses, tu fais des grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle,
toi le Dieu fidèle, puissant et étonnant.
Oui, tu fais de grandes choses,
tu fais des grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant et étonnant.
Jésus, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant, étonnant, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Jésus puissant. J'aimerais nous inviter à nous lever ensemble, tous ensemble. En ce matin, je n'ai pas d'appel particulier à faire, si ce n'est de nous demander de prier et de lever nos cieux. Est-ce que ce matin, tu peux prier et lever les yeux? Dieu ne te demande pas seulement de te tourner vers lui, mais de lever les yeux. De dire au Seigneur, Seigneur, ce matin, je décide de ne plus avoir les yeux baissés. Je ne veux plus continuer à regarder en bas, mais je vais lever les yeux vers Dieu, celui qui a la solution, celui qui est la solution. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce qu'un homme, une femme peut prier et prendre la décision de ne plus se laisser abattre, de ne plus se laisser écraser par les poids des méandres de la vie, des choses par lesquelles vous passez peut-être, vous ont dicté une attitude, vous ont dicté un rythme, vous marchez, mais vous avez comme un poids, une charge. En ce matin, décidez de lever les yeux pour avoir le même avis que Dieu, la même opinion que Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu voit? Le Dieu fidèle, le Dieu puissant, le Dieu qui fait de grandes choses, c'est celui qui te parle en ce matin. Il te dit, lève les yeux vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront. Elles pâliront à tes yeux si tu lèves tes yeux vers Jésus. Arrête de regarder dans tes ressources. Arrête de regarder dans tes capacités. Arrête de regarder dans tes parents. Arrête de regarder dans ton mari. Arrête de regarder dans ton épouse. Arrête de regarder dans tes enfants. Aujourd'hui, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux vers l'Éternel. Lève les yeux comme Abraham. Tu verras que Dieu a prévu une ressource. Lève les yeux, tu verras que l'agneau est déjà là. Lève les yeux, tu verras l'ange de l'Éternel devant tes combats. Lève les yeux et la résurrection arrivera. Lève les yeux. Choisis de lever les yeux. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire au Seigneur, je ne veux plus regarder en bas. Je ne veux plus regarder en moi-même. Je ne veux plus regarder autour de moi, mais je regarde en haut. Je veux regarder en haut mes ressources, ma force. Elle me vient de toi, car une fois, l'Éternel a parlé, et deux fois, j'ai entendu que la force est à Dieu. Ce matin, Seigneur, donne la force. Donne la force à quelqu'un qui est fatigué. Donne la force à quelqu'un qui est épuisé. Donne aussi la force à quelqu'un pour être capable de parler de ta part, de gagner des âmes pour toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons.
Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant
est ton nom.
Tu fais de
tes œuvres sont glorieuses.
Tes œuvres sont glorieuses.
Toi le Dieu
fidèle,
puissant,
tu fais de
tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, oui tu fais de
tes
œuvres sont glorieuses.
Toi le Dieu